Et nous y revoilà du coup, c'est moi qui prends la main et je vais vous parler donc des 500 ans du Havre.
Moi j'aurais
bien c'est
voulu...
pas toi qui prends la main.
Non, bah non, en fait.
Alors attention, effectivement, je m'ai trompé. Je m'ai trompé dans mon film, mais t'inquiète pas, t'inquiète, Popiette.
Tu gères le truc.
Je gère le. Enfin,
moi j'aurais bien voulu savoir ce que c'était comme morceau quand même.
Oui, déjà, ouais. Donc c'était Count Me Out des Roadrunners. Qui est un groupe havré.
Qui est un de tes morceaux préférés que tu écoutes tout
voilà,
le temps.
Voilà, donc que j'ai découvert en même temps que vous. parce que j'avais jamais écouté les Roadrunners. Et puis, vu que c'est un truc du Havre, autant l'écouter.
C'est
avec
très
vous.
Très bien les Roadrunners. Il y a quelques albums qui peuvent encore se trouver. Moi, j'avais trouvé quelques CD encore en occasion. Et c'est vachement bien. Ça fait du bien d'écouter ça. Ça ramène aussi à une époque qu'on n'a pas forcément connue. Parce que moi, j'étais gamin moi, quand ils ont sorti ça. J'écoutais pas de musique.
Mais c'était les moments forts du rock'n'roll.
C'est super intéressant à écouter.
Ok.
Eh bien, soit. Et à ce compte-là, écoute, je vais passer la parole à Vincent, puisque je respecte mon fil conducteur. Le fil conducteur que j'ai préparé avec amour un quart d'heure avant de réquiner.
On sent le professionnalisme jusqu'au bout.
Bien sûr, oui.
Toujours ça qui est intéressant.
Un peu fatigué, ouais.
Alors, donc moi, je venais vous parler du coup de l'incidence et de l'impact des vêtements, du style vestimentaire dans la société, dans l'image qu'on dégage aujourd'hui dans une société donc basée vraiment sur l'image, avec tous les réseaux sociaux, de photos, de choses comme ça, qui font partie maintenant de notre quotidien et notre façon de voir, que ce soit nos amis, nos gens qui sont loin, notre famille, les hommes politiques, enfin, on est tous là-dedans. Et du coup, ça, même à petite échelle, je trouve que l'incidence d'une tenue vestimentaire pour aller à la boulangerie ou aller à une administration chez Pôle emploi, peu importe, nous permet de... cette année, je lui ai fait une petite expérience. Je m'habillais très différemment et j'essayais de voir avec quelle tenue je pouvais demander le plus de choses et avec quelle tenue je pouvais plus m'intégrer dans tel ou tel groupe. Et je trouve ça intéressant d'être dans un bar et de voir 5 mecs avec une grosse barbe, des piercings et des t-shirts noirs. Et toi, t'es habillé avec une chemise dans ton pantalon, t'essayes d'échanger. Tu vas pouvoir échanger, mais tu sens qu'il y a une barrière infranchissable qui va rester là. Et je trouve ça assez impressionnant parce que le lendemain, il suffit que tu les revois et que tu sois habillé socialement comme eux et ça fonctionne. Et ça va matcher plus que si cette barrière n'était pas là.
C'est super intéressant parce que c'est à la fois la question de qu'est-ce que je montre de moi en m'habillant, parce que finalement, c'est l'emballage, quoi. Et c'est aussi la question de, je pense souvent quand tu es ado, de comment je dois m'habiller pour intégrer ce groupe
question
social.
Question un peu d'identité,
qui m'intéresse.
Bien sûr.
Même
bien
si tu as t'habillé avec des trucs qui, finalement, dans lesquels tu n'es pas forcément
bien
à l'aise.
Et du coup, on en revient à être soi-même un produit marketing parce que c'est que le contenant compte plus que le contenu. Et du coup, tu fais du marketing sur toi-même en disant si c'est là que je veux aller, c'est comme ça que je dois me déguiser.
Pour la simple et bonne raison que tu te coiffes bien et que tu t'habilles bien à un rendez-vous amoureux.
Oui, c'est un peu ce genre d'idée, quoi.
Bah ouais, t'es juste, tu te vends en permanence, en fait.
C'est ça. Mais
tu
c'est...
te vends en permanence.
Et je trouve, après, sur des événements qui sont socialement acceptés, un rendez-vous amoureux ou un entretien d'embauche ou ces choses comme ça, où il est de bonne aloi d'avoir une tenue vestimentaire, on fait attention, tout simplement. Mais même tous les jours, je trouve ça assez marquant de regarder la barrière que tu peux mettre. Et du coup, je faisais écho tout à l'heure à l'expérience de Wilgram.
Ouais.
Ça fait écho à ça. Donc, cette expérience... Ou des acteurs. Du coup,
c'est du conditionnement, en fait.
C'est pas du conditionnement, mais vous connaissez l'expérience de Wilgram, ça vous dit quelque chose. Ouais. Donc il y avait des comédiens, c'était dans un faux laboratoire, avec quelqu'un sur une chaise électrique. Ouais. Donc que des comédiens, ils faisaient venir quelqu'un, une personne lambda. Et sous prétexte que les gens derrière le pupitre de commande de la chaise électrique avaient une blouse blanche et se disaient professeur, et ils demandaient à la personne d'augmenter la tension électrique qui était dans l'être humain jusqu'à la mort fictive de ce personnage-là. Et du coup, la personne se sentait pas responsable du fait qu'elle considérait, par rapport à la blouse blanche, qu'il y avait quelqu'un qui était... référent.
En fait, c'est une expérience... c'est une expérience qui est un peu sur le, enfin qui est un peu, qui est sur le, comment dire, sur l'argument d'autorité aussi.
C'est ça.
Dans le sens où comment légitimer en fait d'être oppressif avec quelqu'un et de pousser quelqu'un à faire quelque chose parce que ta tenue lui suggère,
c'est ça,
ton autorité, c'est ça, à savoir la blouse blanche,
exactement,
à savoir
le contrôleur dans le métro, le policier le métro municipal. Enfin, on en revient toujours à ce déguisement du policier super-héros. Enfin, vous voyez, c'est voilà, ce...
exactement.
Bah, le déguisement de policier, pour le coup, c'est le plus beau déguisement qui est, vu que c'est celui qui est créé pour faire peur, en fait.
C'est ça.
Mais c'est ça. Et puis, il y a un moment donné où, en fait, dans l'expérience, ce qui a été intéressant là, qu'ils ont fait il y a quelques années, ils ont fait cette expérience-là à la télé. Je crois que c'était France 2 ou France 3, un truc comme ça. Donc, ils ont tourné ça sous forme de jeu télévisé. Et en fait, tu te rends compte que cet argument d'autorité de la blouse blanche, eh ben, elle marche avec la télévision, en fait. Et c'est super dangereux.
Bah oui.
Et donc, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans dans ce que tu dis dans la vie de tous les jours, parce que un patron, par exemple, qui va s'habiller un peu plus détente, en général, va avoir des meilleurs rapports avec ses employés.
Toi, en tant qu'employé, tu auras plus tendance à oser une blague ou à aller plus vers le tutoiement de cette personne-là que si c'est de manière hyper formelle,
un gars costard cravate avec des boutons de manchette.
Exactement.
Voilà.
Et du coup, c'est, enfin, moi, je viens pas avec des réponses sur ce là-dessus, mais juste des questionnements, dire est-ce que c'est aussi à nous de pas de lutter contre l'image et le marketing de soi-même, mais si on peut faire attention et au moins essayer de pas faire que de l'entre-soi social par l'entre-soi vestimentaire et sortir un peu de ça, essayer de, enfin, moi, c'est le meilleur conseil que j'ai jamais eu de ma vie, de la part de mon papa, soit un caméléon. Essaye de rencontrer des gens de tous horizons. Et du coup, essaye d'aller au-delà de cette barrière que tu peux avoir en voyant quelqu'un en disant on est bon, ça marche pas, on est trop loin. Ou alors,
parce que c'est un punk, parce qu'il a une créature.
C'est ça, exactement. Parce qu'il a une bière à la main. Et du coup, alors qu'on a des tas de choses à se dire, on est des frères et sœurs de la planète Terre, on a certainement on a un avenir à partager ensemble. Donc, de toute façon, on a des choses à se dire. Et je trouve ça briser ce truc-là, ça, je trouve c'est important.
Ouais, mais alors, comment tu penses pouvoir briser ces choses-là? Parce que moi, par exemple, je vois pas comment.
En étant
faire,
tout
en fait.
Nu.
Bah ouais, voilà. Enfin,
ça, là,
c'est le seul moyen, c'est ça.
Ça peut être une des clés.
Voilà, faut kiffer les tétons, mais en étant tout nu, ça peut le faire.
Moi, ma technique là, durant cette année, ça a été de tous les jours switcher un nouveau truc. Donc ça a été.
On a vu ça.
Ça, ouais, c'est ça peut passer de la chemise dans le pantalon au mini short, au jogging. Essayer de brouiller les cartes en fait pour que en face de toi la personne ne comprenne plus du
mais
tout.
Alors, tu vois.
Elle n'a plus aucun repère de vestimentaire. Et du coup, elle ne peut plus se baser sur rien du tout. Elle est obligée de t'écouter parce qu'elle ne sait pas du tout ce que tu es.
Alors, tu vois, tu as mené cette expérience-là cette année. Et pour le coup, donc on a passé beaucoup de temps cette année ensemble. Et. Bah, tu vois, moi, comment je l'ai reçu personnellement, c'est que au bout d'un moment, très très peu de temps, on s'en fout en fait.
Bah voilà.
On s'en fout de comment il est habillé et juste,
bah
c'est cool parce que Vincent, il s'habille parce que faut s'habiller et parce que t'es à l'aise dedans dans tes fringues et c'est cool. Et ça enlève en fait beaucoup de choses
c'est
et du coup, l'interaction sociale se fait beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas d'a priori qu'on a tous, de toute façon, on a tous des a priori, que ce soit dans le bon sens ou non, mais on a tous des a priori à partir du moment où on commence à parler avec un mec qui a des rastas,
oui.
Ou un mec qui porte un cuir,
ou chaussures vernies, ou peu importe.
Voilà,
mais,
nana en robe, ou
c'est
une
ça.
Nana en survêt.
C'est ça.
Et donc là, ce qui était intéressant dans ce que tu as fait, c'est que du coup, effectivement, ça, très très vite, on s'en fout, et
c'est
puis
ça.
On passe à l'humain et à ce qu'il y a vraiment en dessous. Quoi.
Non, c'est parce que j'ai la main levée depuis au moins 5 minutes. Moi, je ne l'ai pas du tout pris comme ça. Moi, pour moi, c'était vraiment une liberté absolue, quoi. C'était vraiment, je m'habille comme je veux et que ce soit socialement, entre guillemets, socialement conventionnel ou complètement random. Comme tu dis, il faut s'habiller pour être accepté. Moi, vraiment, je l'ai pris comme... mais même pas comme de la relâche, tu vois, je m'en fous et tout. Vraiment, je l'ai compris comme une liberté supplémentaire, quoi.
Oui, c'est vrai que Là, tu as fait cette expérience dans un contexte
assez particulier, ouais, c'est-à-dire voilà, qu'on
c'est
a on a une formation de 8 mois avec des gens qu'on connaît pas et on vient tous d'horizons extrêmement différents.
Et on vient tous du spectacle, tu vois. Donc déjà, il y a cette
mais c'est quand même 8 mois tous les jours au quotidien avec des gens que tu ne connais pas. Et donc en fait la finalité elle est la même que l'uniforme. Au final de se dire on s'en fout puisqu'on est tous pareils et là c'est on s'en fout parce qu'on est tous différents.
Oui,
et donc je trouve que la finalité est intéressante mais le moyen d'y venir on s'en fout, on est tous différents. Je trouve ça un peu moins dangereux.
On porte un uniforme socio-culturel.
Oui, oui. Tu sauf vois, que là, on était d'horizons différents. T'aurais fait ça dans une école de commerce, ça aurait pas eu le même impact.
Ah, bah ouais.
C'est ça que je voulais dire.
Ah, c'est sûr. Mais parce que l'école de commerce, t'as aussi un uniforme déjà, c'est institutionnel aussi. Tu ne te présentes pas. Enfin.
Mais c'est là où c'est dommage parce que, enfin, moi, je me mets à la place de quelqu'un, par exemple, qui vient d'un milieu social plutôt défavorisé, qui rentre en école de commerce. Eh ben, je pense qu'il doit y avoir une sorte de malaise au début ou une incompréhension.
Il y a déjà une barrière en fait de base parce qu'il arrive là-bas, il n'y a que des costards.
Exactement. À la rentrée des classes, c'est que déjà, il y a un truc qui se dit « ça va être dur, déjà je sais que je vais devoir prouver, je vais devoir arracher deux fois plus ». Et du coup, je trouve ça extrêmement dangereux comme barrière, alors que c'est une barrière qui n'existe pas du tout, quoi.
Mais parce que c'est pas une barrière qui se rencontre à l'école, mais qui va plutôt se rencontrer dans le milieu professionnel plus tard.
Et qui se rencontre partout. Mais tu rigoles à l'école, évidemment.
Oui, oui.
Le simple truc, t'es le seul gamin de la cour d'école à pas avoir les dernières baskets à la mode. Juste ça.
Bah, c'est ultra clivant.
Bah voilà. Même, en fait, c'est qu'il y a parce que le vêtement, c'est aussi un marqueur de rang social. Tu vois, d'appartenance sociale à un moment donné. Et on a fait chier nos parents et on a ruiné nos parents pour avoir les dernières Adidas ou je sais pas quoi. C'est ridicule. Mais parce que on vit dans une société où t'es conditionné de toute façon dès le début à être comme ça parce que t'as de la pub en fait partout. Parce que quand t'es le seul à pas avoir eu les Power Rangers à Noël ou à pas avoir une Game Boy, à pas avoir ta Game Boy dans ton sac, dans ton cartable, on t'a conditionné pour que pour rêver à ces choses-là, en fait. Donc, quand un mec, je ne sais plus qui est-ce que c'était, je crois que c'était Seguela, je ne sais plus comment on dit, qui avait dit si tu n'as pas de Rolex à 50 ans, tu as raté ta vie. Seguela, on est conditionné par ça, en fait, à un moment donné. Alors que là, ce
pour
que
moi,
dit Vincent,
l'intérêt
c'est qu'on s'en fout.
Voilà.
Et son expérience,
d'où l'intérêt à la source de brouiller un maximum les cartes. Parce que c'est ça, c'est on est un peu des animaux et on se regarde, on se renifle, on s'estime, on ne s'estime pas. Et le fait d'envoyer des signaux hyper contradictoires, c'est que la personne en face de toi, elle va plus comprendre. Et du coup, elle va chercher. Et du coup, elle va pas prendre ce qu'on lui donne, mais elle va chercher. C'est là où c'est intéressant. C'est qu'on cherche les uns vers les autres, on va creuser. Et là, on va découvrir des choses intéressantes et on va prendre ce qu'on a envie d'en prendre ou on prend pas le reste. Mais au moins, on fait la démarche, quoi.
Elle va chercher, surtout. En fait, le truc, c'est que. Elle va chercher, ça va instaurer le dialogue, ça va ouvrir le dialogue. Ce qu'a fait Vincent cette année, ce que je trouve super intéressant, c'est que très très vite tu t'en fous et que moi Vincent, je peux pas le mettre dans une case et je m'en fous. J'ai pas envie de le mettre dans une case. Il y a des gens, tu vois, quand tu présentes un pote à un pote, tu vas forcément lui dire.
Il fait ça, c'est son job, il fait ça.
Voilà,
lui, il est comme ça, il est drôle.
Voilà.
Il fume, enfin, voilà,
et
quoi.
Des fois, il suffit que la personne ait un look un peu marqué pour que tu dises tu vas voir, c'est un rocker ou tu vas voir, c'est un punk ou machin. Mm. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est qu'est-ce qui fait, pourquoi tu me le présentes, qu'est-ce qui fait que nous, on va s'entendre.
C'est ça, c'est des questions d'image primaire.
Et puis, c'est un truc, tu vois, moi, c'est pas quelque chose que je fais parce que. Parce que moi, je suis un peu victime aussi de cette imagerie socioculturelle dans les courants culturels qui m'intéressent et qui me parlent et qui m'ont suivi toute ma vie. Ce sont des courants qui sont aussi très, très marqués dans le style vestimentaire, etc. Et voilà, moi, j'aime bien aussi cette imagerie-là et du coup, je m'habille en fonction aussi. Un truc qui est super intéressant, c'est être dans un concert de métal ou un festival de métal avec une veste à patch. Et un t-shirt ou Wu-Tang Clan, tu vois. Et là, le dialogue, en fait, il se fait. Parce qu'il y a un mec qui va te dire, mais qu'est-ce que tu fous avec un t-shirt ou Wu-Tang Clan? Et tu vas lui dire, j'aime bien. Et il va te dire, j'avoue, ils sont forts. Et là, tu vas parler de rap dans un concert de métal. Et forcément, vu que tu es là pour la même chose, le groupe, il va se mettre à jouer. Et tu vas parler de ça aussi avec ce gars-là. Et ça fait des connaissances. Et en fait, je trouve ça... Alors, je ne ferai pas un truc comme Vincent a fait, parce que voilà, moi, je suis un peu trop victime de ce truc-là aussi, mais je trouve ça intéressant dans ce sens-là. C'est que Vincent, aujourd'hui, tu t'en fous. Un mec qui s'habille, pas n'importe comment, mais qui s'habille juste, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui transparaît sur lui de ses goûts en matière que ce soit de...
C'est ça, tu sais pas en fait qui
est en face de toi. Voilà, et donc tu parles avec la personne et point. Et c'est très très bien. Et marquer des trucs comme ça, tu vois, arriver dans un lieu très codé au niveau vestimentaire et arriver avec un code vestimentaire qui est acceptable parce que tu viens pas en guenille, mais qui, enfin, un code vestimentaire qui te permet de rentrer, mais qui dénote complètement avec le reste. C'est super
le but
drôle.
C'est s'extirper aussi de bah, du coup du phénomène d'image, etc., et de revenir à une simplicité du rapport humain un peu enfantin, quoi. C'est bah bonjour, t'as l'air super sympa, tu me fais rire, bah on est copains, viens on fait ça ensemble, quoi.
Moi je me souviens, ce qui m'avait le plus marqué, c'est quand t'étais venu avec ta veste cop et ta casquette Vittel.
Ça tue.
Bah ouais, c'est juste deux marques qui ne vont. Ouais, ça va.
Ça tue.
C'est drôle, quoi, de se ramener comme ça.
Mais c'est une veste. Enfin, elle est très bien taillée. Ouais, c'est aussi
drôle.
Dessus, on s'en fout.
C'est aussi drôle que moi de voir Hakim tous les jours avec une bague tête de mort. Je trouve ça aussi drôle. Enfin, voilà. Tu vois, c'est des codes en fait que toi tu mets.
Que tu crées.
Et c'est ça. Et
tu marques ton appartenance à quelque chose en fait.
Et juste, moi, l'intérêt de le faire, c'est aussi de te donner, hop, le lendemain d'en ressortir. Comme ça, tu sais pas. Je sais pas si juste travaille chez Coop ou en fait si juste
ça, ouais.
Si juste là je vais au cinéma.
Par exemple. Ouais. Alors que voilà, tu vois, moi quand je porte une bague avec une tête de mort dessus, c'est bah ouais, depuis que je suis tout petit, je vois des musiciens avec des bagues comme ça, je trouve ça trop classe et j'aimerais trop un jour en avoir une et j'aime bien en plus de ça porter des bijoux et bah vas-y. Et moi je dis ça. Lui Vincent, il dit vas-y, viens, parle-moi. J'ai rien à te dire avant que tu aies commencé à me parler en fait. Et on a de toute façon ces a priori là.
Ouais, autant jouer avec parce que ça existe en fait.
On a tous des préjugés.
Ouais, ça existe. C'était Einstein qui disait il est plus difficile de faire disparaître un préjugé qu'un atome, tu vois.
Ouais.
Et c'est vrai, c'est, ouais. Quoi qu'il arrive, ça existe. On a beau dire oui, c'est nul, oui, non, mais peu importe, ça c'est trop tard, c'est dit ça. Arrête d'enfoncer les portes ouvertes, juste on peut passer au-delà, quoi.
Tu vois, quand un pote à toi te dit viens, rejoins-moi ce week-end-là, on fait une soirée ensemble et que t'arrives, tous ses potes, c'est que des teufeurs, tu dis waouh. Ouais. Pourquoi je me suis embarqué,
c'est ça.
Tu vois.
Ah oh non, une soirée de chevreuil.
Bah ouais. Alors, ah ouais, ça va être dur, tu vois. Ça va être dur.
Ouais, oui.
Évidemment, forcément, t'es marqué par ça. T'es marqué par ça. Donc, une expérience comme ça, c'est super intéressant et ça montre bien quelque chose, c'est que on s'en fout comment t'es habillé, on s'en fout à quoi tu ressembles. L'intérêt, c'est qu'est-ce que t'as dans la tête et qu'est-ce qu'on va s'apporter.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as donné, est-ce qu'on se fait grandir, quoi.
C'est ça. Mais alors maintenant, ça c'est bien de le vivre. Et comment on peut le transmettre en fait? Parce que justement, on parlait des gamins tout à l'heure. Va expliquer à un gamin que s'il a pas ses chaussures Adidas, bah c'est pas grave.
Bah dans l'éducation que tu vas donner à ton enfant.
Mais ouais.
Enfin, rappelle-toi des crises que t'as tirées à ta mère.
Mais forcément. Mais regarde, aujourd'hui, il y a plein de gens. Moi, je connais des gens qui ont des gosses aujourd'hui qui sont bébés, hein, tu vois, mais qui ont juste pas la télé chez eux, par exemple.
Oui.
C'est un truc à la con. Un truc tout bête.
En plus, l'avantage, c'est qu'il y a 5-10 ans, ne pas avoir la télé chez soi, c'était très marginal. Maintenant, ça devient très acceptable et au contraire, ça devient presque conscience sociale et élitiste de dire ouais, c'est bon, je te détache de ça. Mmh. Et je pense qu'on est dans un retour là-dedans. C'est comme acheter en vrac chez l'épicerie, quoi. Tu vois, c'est peu importe dans quoi, peu importe comment, c'est pas grave si en packaging il n'y a pas des étoiles vertes. Si à l'intérieur c'est bon et que je prends du jus d'orange pressé sans étiquette, je sais que c'est bon. Et du coup, on revient un peu à ça en ce moment. Et je pense qu'il est aussi de bon ton de si ton enfant plus tard il veut porter un chapeau vert alors que c'est bizarre et que c'est la photo de classe, et ben porte un chapeau vert, mon enfant.
On s'en fout.
Ça te fait sourire, vas-y.
Et c'est des trucs qu'on a à changer donc dans l'éducation des gosses aussi. C'est au-delà de ce truc-là de consommation. Enfin, pas de consommation, mais de paraître. C'est aussi changer le mode de consommation. C'est dire à une petite fille ou à un petit garçon sur le catalogue de Noël, qu'est-ce que tu veux comme jouet, que la page soit bleue ou soit rose. On s'en fout. Enfin, tu vois, je trouve ça mortel qu'une petite fille elle demande des Batman et des Spider-Man à Noël, qu'un petit garçon demande une poupée. Mais vas-y, enfin, c'est... Et déjà, il y a quelque chose de clivant, ne serait-ce que dans les pubs que tu reçois, etc. Donc, c'est tout ce truc-là qu'on doit changer. Et comme dit Vincent, bah, il y a quelques années, avant, tu vois, la nouvelle crise qu'on a eue financière là en 2008, ouais, effectivement, on était encore dans ce mode. On est dans une société de consommation de toute façon. Et les gens commencent à se rendre compte que c'est la merde.
Surtout, il y a des lignes qui bougent. Enfin, c'est pas non plus. Je suis d'accord. Je te vois aussi de la tête, Paul.
Ça bouge pas très vite quand même. Mais...
Non. Mais c'est aussi à nous. C'est pour ça que ta question était légitime. C'est aussi à nous de le faire. Mais
tu vois, les immeubles participatifs, par exemple.
C'est à nous.
Ça change un mode de consommation.
C'est
ça
à nous d'aller creuser plus loin et de dire ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. En fait, c'est comme te présenter à quelqu'un et dire, moi, c'est pas, je fais quoi dans la vie. C'est moi, j'aime ça. J'aime les olives et je mange pas les noyaux. Bah, ok, moi non plus, cool. Mais on fait des blagues en fait. Non, mais voilà.
Et puis t'évolues. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, moi je prends juste mon exemple, c'est le seul que je connais. Mais évidemment, quand j'étais gamin, j'ai saoulé mes parents pour avoir les dernières chaussures de machin, je sais pas quoi. Et aujourd'hui, je passe aux puces, je me chope deux paires de pompes à 20 balles, ça me fait 2 ans.
Enfin, on voit bien aussi l'engouement pour les kilo shops ou ce genre de magasins.
Voilà.
Ouais, la réutilisation. Et... Après, le. Sur le principe, il y a un truc, mais après, comment c'est fait, on peut en débattre, et c'est pas très, pas très sain, mais il y a un truc quand même de la réutilisation, de oui, bon, bah, on va bricoler ensemble des assauts qui réparent des électroménagers, enfin, il y a des choses qui bougent un peu.
Ce qui me fait peur, c'est que c'est, tu vois, on parle de Kilo Shop et puis tous ces trucs-là, genre MAD et tout ça. Au final, ça, c'est comme un magasin H&M, tu vois. Tu peux pas comparer ça à un magasin Emmaüs, tu vois. Et pourtant, il y a très peu.
Oui, mais ça change le mode de consommation.
Enfin, c'est pas
de toute façon, parce que regarde, nous, on fait ça aujourd'hui. Nous, nos parents, ils faisaient pas ça. Ils nous ont, on a baigné dans cette société-là et on les a fait chier pour avoir des pompes quand on était gamin. Nous, on consomme de cette façon-là. Bah, forcément, nos gamins vont plus consommer comme nous que comme nos parents. Mmh. Et le jour où tous ces trucs-là, ils cartonneront vraiment et qu'ils prendront vraiment de la place, c'est là où, du coup, ah bah, ce modèle économique-là change, devient celui-là, donc on va, le reste va évoluer, tu vois. Je pense, je sais pas, je suis pas économiste, mais je me dis que quand un phénomène prend de l'ampleur, c'est à ce moment-là qu'il change les façons de faire des gens en profondeur, en fait.
Moi, je dirais que ça change les façons de vendre les choses.
Ah bah, forcément.
C'est surtout ça, en fait.
Forcément. À un moment donné, forcément.
Il y a toujours eu de la fripe, hein. C'est juste qu'il y a une époque où il n'y avait que les gens qui ne pouvaient pas se payer des fringues qui y allaient. Maintenant, il y a un effet de mode et du coup, bah, y en a qui en profitent pour vendre ça deux fois plus cher que dans les vrais friperies. Mais ça reste un vêtement, ça reste une marque en fait.
Mais alors,
ça reste du Kilo Shop.
Moi, je ne parlais pas forcément.
Tu portes une veste, il n'y a pas marqué la marque dessus, mais il y a marqué
d'accord,
Kilo
ouais.
Shop. Tu vois.
Tu dis, j'ai acheté là-bas quand même.
J'ai acheté là-bas.
Ouais, mais tu vois, moi, je ne parlais pas forcément de ça. Je pensais plus, tu vois, au Givebox qui, ouais. Tu vois, qui naissent un peu partout dans les villes. Je pensais à l'explosion des trucs, des sites comme Le Bon Coin, comme Blablacar, comme là on m'a parlé d'un site genre d'entraide entre voisins où tu peux trouver des mecs qui peuvent te louer un camion, quoi.
Tu proposes des services, tu dis moi je sais faire ça,
voilà, moi je sais faire
dis
ça
à ta voisine, moi je répare ton évier s'il est cassé et voilà. Toi tu me fais le ménage
et tu fais une prestation à pas cher, tu vois. C'est genre là j'ai vu, je crois, un camion, le mec pour la journée il te le laissait, c'était même pas 10 balles, enfin tu vois, et du coup le fait que tout ça cartonne, ça a tout changé. Je sais pas, je te retrouverai le nom. D'accord. je sais plus, mais
moi, j'ai vu à grande échelle sur des prêts d'argent. Pareil, c'est un site internet qui met en relation des gens pour emprunter de l'argent. Donc en fait, il faut, si tu viens avec en disant moi j'ai tant à prêter, il faut venir avec quand même du capital immobilier et des garanties. Et donc tu mets à disposition de la plateforme l'argent, tu dis bah, moi j'ai 10 000 euros à prêter. En face, l'emprunteur arrive et signe du coup pareil un contrat comme quoi il doit tant par mois des mensualités. Mais simplement, au lieu de donner de l'argent à une grosse entreprise, ouais. Et ben l'argent, donc les intérêts qui sont le coût de l'argent, en fait, vont à quelqu'un de privé qui pourra recommencer à faire ça. Et moi, je préfère donner de l'argent à quelqu'un que je connais plutôt qu'à, qu'à une marque de banque où je ne sais pas du tout, c'est très occulte.
Et tu vois,
ça me fait peur. Ouais, quoi.
Et tu vois, ça rejoint le crowdfunding sur Internet. C'est-à-dire que là, on en arrive à un moment où les gens peuvent financer leur propre produits culturels. Ça, c'est ouf. Du coup, ça me permet de faire une analogie avec ce qu'on est en train de dire. C'est que les gens qui donnent sur Internet à des vidéastes, à des musiciens, à des artistes pour qu'ils puissent créer, il y a plein de web-séries qui se sont créées comme ça. C'est un truc de fou. À côté de ça, tu as la FNAC. Tu vois ? Et bien là, c'est pareil. Tu as les gens qui mettent dans les giftbox, les gens qui vont dans les vrais friperies et qui ouvrent des vrais friperies, etc. Et tu as Kilo Shop. Mm. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il faut, il faut changer le truc au quotidien pour que ça change vraiment à la base. Tu vois ?
Ouais.
C'est ça le truc, c'est que les gens se sont mis à pirater sur Internet. 10 ans, 15 ans après, il y a Netflix. Voilà. Tu vois, c'est pas ce qu'on a piraté qu'il y a Netflix aujourd'hui. Hein. Faut se le mettre en tête quand même.
Comme quoi, pour conclure, habillez-vous n'importe comment, vous changez le monde. Hein.
Ouais,
c'est carrément ça.
Je pense que c'est la meilleure.
N'hésitez pas.
Je veux bien conclure là-dessus. Habillez-vous n'importe comment si vous voulez changer le monde.
Le timing arrive à échéance. C'est mort. Moi, j'ai quasiment pas pris la parole parce que vous l'avez. Pareil, c'était très bien, vous l'avez très bien mené, c'était mortel. Et je vous en remercie d'ailleurs. En tout cas, on te le souhaite.
c'est un peu gadget, ça mais on te le souhaite.
Je te jure, ça va être ma devise.
Mais bien sûr, on va tous se le faire tatouer, j'en suis sûr. Hakim, mon bon Hakim,
oui.
Je suis sûr que tu as du son à nous faire découvrir, ma peau là.
Ouais, j'ai un petit son sympathique comme tout à vous faire découvrir. Je suis tombé là-dessus. Alors, j'ai pas grand-chose à en dire parce que très sincèrement, je suis tombé là-dessus par hasard. J'ai trouvé ça génial. C'est un mec qui fait du son et qui un beatmaker qui balance ça sur SoundCloud et un peu sur YouTube. C'est un gars qui s'appelle Repfi. Je sais pas comment on prononce. C'est R-E-B-F-Y. Repfi. Là, c'est un morceau en fait qui est un morceau de trap, donc juste de l'instrumental. Avec des sonorités un peu à la Laurence d'Arabie. En gros, il faut imaginer un mariage entre Laurence d'Arabie et Die Hard. Tu vois ?
D'accord.
C'est avec des
le
gros
grand
drops.
Le grand écart.
Tu vois, genre ça, comme si tu faisais Fast and Furious en mode Laurence d'Arabie.
C'est ça, ouais. T'as Laurence d'Arabie et t'as John McClane qui débarque, quoi.
C'est ça. Ouais. Avec
Vin Diesel au volant. Qui est dans le Groover derrière, là.
Ouais. dans Fast and Furious 12, ils le feront, apparemment.
J'espère bien. Bah écoute, here we go.
Here we go.